Vous avez entendu dans nos nouvelles le premier ministre François Legault qui, en réponse à Dominique Anglade, a annoncé 16 nouveaux décès. C'est quand même important. Dès que j'ai les chiffres à vous transmettre, les chiffres de la santé publique, les nouveaux chiffres d'hospitalisation et de cas confirmés, je vous les donne, bien sûr. En attendant, j'aimerais qu'on discute maintenant du port du masque à l'école parce que depuis les derniers 24 heures, on nous a beaucoup présenté l'exemple de l'Ontario à la lumière aussi de nos propres écoles où, on le dit aujourd'hui, il y a à peu près une école sur cinq au Québec qui est infectée par le coronavirus, qui progresse beaucoup en milieu scolaire. On en parle, évidemment, vous voyez qu'il y a des écoles ici et là qui ont dû être mises en quarantaine, une couple de centaines d'écoles, c'est pas rien. C'est vrai qu'il se passe quelque chose dans nos écoles. On nous a beaucoup parlé de l'importance d'aérer, d'ouvrir les fenêtres, d'avoir une salubrité là, accrue. En même temps, là, ce qu'il faut peut-être se demander, est-ce qu'on n'est pas rendu au point où il faut suivre l'exemple de l'Ontario, qui a quand même moins de cas dans les écoles qu'on en a au Québec et chez eux, le port du masque dans les classes est obligatoire pour les primaires et secondaires. Est-ce que vous pensez qu'on est rendu là? On vous a présenté toutes sortes d'invités en première heure. On va le faire également en deuxième heure. Voici la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Josée Scalabrini. Bonjour, Madame Scalabrini.
Bonjour, Madame Maréchal.
Sylvain Mallette est président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour, Monsieur Mallette.
Bonjour, Madame Maréchal.
Bon, tous les deux, qu'est-ce que vous en pensez du fait de rendre obligatoire le masque à l'école, Josée Scalabrini?
Regardez, moi, je suis pas une spécialiste de santé publique. C'est pas mon champ d'expertise, mais une chose est certaine, quand je parle de pédagogie, je veux avoir le choix de mes méthodes pédagogiques. Mais en tout temps, je suis capable de les expliquer. Présentement, ce qu'on n'accepte pas, c'est le double standard qui est vécu par les citoyens versus nos établissements. Un enseignant, un personnel de l'éducation, c'est un citoyen. Pourquoi ce double standard-là et pourquoi on n'est pas capable de mieux l'expliquer? Est-ce que c'est le port du masque? Est-ce que c'est les attroupements? Est-ce que c'est le fait que les jeunes se passent leurs apoteuses, là? Est-ce que c'est les sports des gens qui sont en dehors de l'école après ça qui reviennent dans les bulles classes? Il y a un problème et on veut des explications.
Oui. Sylvain Mallette, là-dessus?
Ben, je pense qu'on doit aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup du modèle ontarien, mais on doit aussi constater que l'Ontario a pas fait seulement ce choix-là. C'est un modèle aussi, c'est un modèle hybride de fréquentation scolaire qui a été mis en place. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'élèves dans les classes, parce qu'on le sait, hein, les classes débordent, les écoles débordent. Donc, c'est pas simplement le port du couvre-visage, c'est aussi les conditions physiques dans lesquelles les élèves vont fréquenter l'école. Puis, ce qu'on constate, c'est que nous, on avait fait la proposition printemps dernier, parce que les profs nous avaient dit qu'ils privilégiaient le modèle hybride. On avait fait cette recommandation-là au gouvernement. Le gouvernement ne nous a pas écoutés. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, malheureusement, puis je dis malheureusement, hein, parce que ça crée de l'anxiété, on se retrouve à constater que l'école est aujourd'hui un lieu où se propage le virus. Et là, moi, je le dis, le premier ministre ne pourra pas prétexter la semaine de relâche, comme il le fait au printemps, pour essayer d'expliquer pourquoi le Québec fait si piètre figure au Canada.
Mm-hmm. Là, évidemment, il y a des chiffres qui sont sortis. On parle de 933 cas de plus de Québécois infectés au virus, 13 hospitalisations. Tout à l'heure, le premier ministre François Legault parlait de 16 décès supplémentaires depuis les dernières 24 heures. Évidemment, le problème, et beaucoup de gens me posent la question là, en ce moment en vous écoutant, est-ce qu'on sait effectivement d'où viennent les éclosions? Là, on dit qu'il y a quasiment une école sur cinq au Québec qui serait infectée. Est-ce que vous avez plus d'informations, tous les deux, de votre côté? Vous représentez deux fédérations de syndicats d'enseignement. Qu'est-ce qu'on en sait véritablement de la situation d'éclosion dans les écoles?
On n'a pas d'informations plus que ce que vous entendez dans les médias. Non, on n'est pas associé à ça. Et depuis le début, on dit que ceux qui sont en première ligne, ce sont le personnel de l'éducation et les enseignants et qu'on voudrait être plus associé aux décisions qui se prennent et à ce qui se fait. M. Mallette disait les recommandations qu'il a faites l'an passé. Moi, je me rappelle d'une recommandation très importante qu'on avait faite. Ne pas commencer l'année comme si on vivait une année régulière. Se donner du temps pour bien faire les choses. Faire un bilan de la rentrée qu'on avait eue au mois de mai, qui avait été dans les milieux où il y avait eu un travail d'équipe et des demi-classes, une réussite. On n'a rien fait de ça. On a commencé l'année comme si tout était normal et depuis ce temps-là, on éteint des feux. On aurait pu construire un mur pour arrêter le feu, mais on éteint des feux depuis le début de l'année. Le personnel de l'éducation présentement est épuisé comme si on était rendu à l'aube des vacances, des fêtes. Il va falloir qu'il se fasse une prise de conscience. On veut rester à l'école. Puis ça, c'est important, là. On veut garder nos élèves à l'école, mais pas au détriment de la sécurité du personnel et des élèves.
Mais justement, vous parlez des élèves, je suis bien contente parce que vous parliez beaucoup de vos membres aussi, puis c'est normal, vous êtes des syndicats, on comprend la sécurité des enseignants, mais ce qui nous intéresse, puis les parents en première ligne, c'est nos jeunes. Puis là, les jeunes le disent, quand on sort de l'école, comment faire pour respecter les règles? On est tous ensemble, on est collés, puis là, on voit nos amis, puis là, ça annule tout ce qu'on fait en classe, disait une jeune plus tôt ce matin, puis que vous preniez Laval, Montréal ou les Rives-Sud, c'est pareil, là. Ça devient difficile pour les jeunes d'éviter de... Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut proposer autre que le masque à l'école? Vous en pensez quoi?
C'est que, d'abord, le concept de bulle classe hein, qui permettait au gouvernement de laisser croire que tout irait bien. On le sait, les élèves sortent de la classe pour aller à la pause, pour aller dîner. Puis c'est comme si on oubliait que les élèves, quand un enfant quitte l'école, quitte la maison pour aller à l'école, le virus reste pas là comme un chien sur le bas de la porte, au pas de porte, pour en attendant que l'enfant revienne à la maison. Là, le virus se propage, donc il y a un problème. Là, on a voulu laisser croire que la bulle classe allait régler tous les problèmes, ce qui est faux. Mais il faut aussi se rappeler, puis c'est ça qui est important, pendant des mois, on a entendu le docteur Arruda, le premier ministre, le ministre de l'Éducation, dire « Ah, les jeunes, même s'ils contractent le virus, ils propagent moins, ils peuvent moins être malades, ils peuvent même moins en mourir. » Ça, c'est rentré dans la tête des gens. Puis un jeune, par définition, ça se croit invincible. Donc, il y a plein de jeunes qui sont des jeunes, puis qui font leur vie de jeunes, qui se disent « Ben, même si je le contracte, j'en mourrai pas. » Et là, le gouvernement il se retrouve dans une situation où il doit lui-même détricoter ce qu'il a tricoté en tenant un discours. Puis moi, j'entends le docteur Arruda là, encore tenir le même discours qu'au printemps, quand il était interpellé sur l'idée d'imposer le port du couvre-visage dans les lieux publics. Il dit « Ah, ça va être difficile à faire, on va-tu être capable? » Il tient le même discours aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer si dans deux semaines, il impose le port du couvre-visage dans les écoles? Les gens vont dire, pourquoi il me disait une chose il y a deux semaines puis qu'il me dit le contraire? Ça crée de la confusion, de la suspicion. Faut donc que les choses soient clairement verbalisées. Faut faire preuve de pédagogie, ce que le gouvernement ne fait pas à l'évidence.
Et vous parlez du docteur Arruda. Vous me permettrez, avant que José Scalabrini enchaîne, vous me permettrez, parce que on a justement sorti des clips ce matin, parce que on en venait un peu à cette conclusion que le docteur Arruda, c'est pas le plus grand partisan du port du masque. Et voici ce qu'il a dit d'ailleurs le 1er avril dernier.
Moi, je préfère quelqu'un qui touche dans son coude, qui va se laver les mains, que quelqu'un qui va avoir un masque plein de sécrétions, dont il va mettre les mains puis qui va toucher à quelque chose. Maintenant, vous faites votre choix.
Voilà. On comprend que là, puis quand les gens disent « il y a donc bien de la confusion autour du port du masque », il faut quand même être d'accord que ça c'était pas clair dès le début, puis que même au départ, là, en mars, en avril, ça a été long. Puis je pense qu'on a fini par y tordre un bras au Dr Arruda, puis pour qu'il finisse par dire que oui, c'est important de porter le masque. On a même un autre clip là, du Dr Arruda.
Dans les faits, ce qui est très clair, c'est que les masques de procédure doivent rester pour les travailleurs de la santé, les masques chirurgicaux, etc., travailleurs de la santé. Ce qui est indiqué là-dedans, c'est qu'en rien, le port du masque fait maison doit être là pour remplacer les autres mesures. Si les gens font ça, ils vont pas se protéger. Le masque qu'on peut porter et qu'on fait, qui doit être bien ajusté, lavé régulièrement, pour lequel on doit diminuer le contact avec les yeux ou la bouche, ça peut être utilisé, mais seulement pour se protéger les autres si on est malade. C'est ce que j'ai dit.
Voilà. Alors, vous voyez, là, on a entendu toutes sortes d'affaires par rapport au masque. Puis là, aujourd'hui, on se demande est-ce que le masque devrait être obligatoire dans les écoles. Aujourd'hui, on nous recommande de le porter partout, même dehors. En fait, on nous dit, restez donc confinés parce que dès que vous sortez, c'est avec un masque. Est-ce que c'est rendu aux écoles? Voyez-vous, moi, je comprends que les gens, puis que les jeunes qui ont entendu ça disent, bien là, on fait ce qu'on peut, mais c'est difficile pour nous de se conformer.
José Scalabrini. Pourquoi le double standard? Un jeune qui va aller à l'épicerie avec ses parents aujourd'hui, demain, va avoir un masque. À l'école, il n'y aura pas de masque. Le jeune ne peut plus aller au restaurant parce qu'il resterait assis trop longtemps près des gens et il pourrait transmettre des gouttelettes, mais il passe 75 minutes dans une classe avec ses confrères et consorts de travail et il n'y a pas besoin de ce masque-là. Est-ce que c'est le masque? Est-ce que c'est les sports? Parce que regardez, tout le monde nous disait il y a à peine un mois, tout le monde a fait du sport cet été, il n'y en avait pas de problème. Oui, tout le monde a vécu des vacances cet été, il n'y en avait pas de problème, mais la réalité a changé. Mais on a continué à laisser penser qu'il n'y en avait pas de problème. Donc, je reviens, est-ce que c'est le masque? Est-ce que c'est les attroupements, les vapoteuses qu'on se passe? Le fait qu'après l'école, on est avec nos amis, les fins de semaine, on est avec nos amis, même si on nous dit qu'il ne faudrait pas le faire parce que c'est le jeune se dit, c'est pas dangereux pour moi. Oui, mais il faut prendre conscience que c'est dangereux pour les gens que tu fréquentes, pour tes grands-parents et pour d'autres mondes. Mais tant qu'il va y avoir des doubles standards qu'on n'est pas capable d'expliquer, ça demeure une problématique dans la tête du jeune.
Mais là, soyons plus clairs encore pour nos auditeurs. En Ontario, où ils ont autant de virus que nous, à peu de choses près, là, enfin, on regarde les chiffres et chez eux aussi, il y a donc cette deuxième vague et une augmentation des cas. Il en reste pas moins que dans le contexte scolaire, on remarque, selon les chiffres ontariens, qu'il y a moins de contamination communautaire dans les écoles. Et la plupart des experts ontariens disent que c'est parce que le port du masque est obligatoire dans les classes. Moi, ma question est directe. José Scalabrini, faut-il faire la même chose au Québec? Doit-on obliger le port du masque dans les classes aux élèves?
Est-ce que c'est le port du masque ou c'est les demi-groupes qu'on a mis en Ontario? Est-ce que c'est la vie en société où il y a d'autres consignes? Je suis pas la spécialiste de la santé.
Ben, les experts ontariens qu'on consulte là semblent dire que le port du masque répond à ça. Alors, oui ou non?
On y répond. Moi, je vais répondre que la santé publique doit nous expliquer et le rendre obligatoire. Moi, c'est pas à moi de le décider, comme je voudrais pas que des gens viennent décider de quelle pédagogie je vais utiliser.
OK, mais vous le souhaitez? Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous pensez qu'on est rendu là?
Si la science le dit, oui, il faudra être rendu là.
OK. Et puis vous, Sylvain Mallette, vous en pensez quoi?
C'est une recommandation qui est contenue dans un rapport d'expertise qu'a produit pour nous la docteure Nima Machouf, qui elle-même, puis il y a toute la question de l'aération aussi, hein, parce qu'il ne s'agit pas juste de porter un couvre-visage, comme elle le soulignait. Il faut aussi que les classes soient aérées, puis on le sait, hein, malheureusement, plus de la moitié du parc immobilier scolaire au Québec est par le ministère lui-même jugé comme étant déficient. Donc, il y a un problème d'aération dans les
Je vais en parler avec la docteure Machouf justement tout de suite après, mais je veux savoir quelle est votre position, Sylvain Mallette.
Moi, je pense que il faut que sur la question du port du couvre-visage, si on en est rendu là, il faut que les choses soient expliquées, mais ça ne peut pas constituer que la seule mesure. J'en veux, par exemple, pour le retour, hein, le ministre laisse croire là, qu'il y aura eu un retour de 800 personnes enseignants retraités. Si le ministre avait fait s'est appuyé sur l'expertise des profs puis avait adopté un modèle hybride, on aurait pu demander à des profs retraités qui craignent de remettre le pied dans les écoles. Là. Clairement, ça fonctionne pas, son appel aux enseignants retraités. Ces enseignants-là auraient pu faire le volet enseignement à distance parce que les conditions dans lesquelles ils auraient travaillé auraient tenu compte de leur état de santé, de leur âge. Mais ce choix-là qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement est allé pour plaire à certaines personnes, certains groupes, sans avoir une vision d'ensemble de la situation. Donc, le couvre-visage, on en est rendu là. Faut que le gouvernement fasse preuve de pédagogie, puis ça peut pas juste être le couvre-visage, faut parler d'aération, faut parler du nombre d'élèves par groupe, écoutez, c'est pas des farces, on demande aux enseignants actuellement de surveiller les élèves, puis on leur dit, tu ne feras pas de récupération auprès des élèves en difficulté, c'est inacceptable. Donc, c'est après devenir un fiasco la rentrée, puis pas parce que les profs puis les personnels n'ont pas voulu faire les choses correctement, parce que les consignes sont confuses, on nous dit blanc le lundi, puis noir le mercredi.
Mm-hmm. Mais merci beaucoup à tous les deux. On va voir ce qui va être décidé. Nous, on poursuit la discussion, bien sûr. José Scalabrini, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous expliquer ça. On va s'arrêter ici. Je vais vous demander à tous ce que vous pensez que On devrait rendre obligatoire le masque à l'école comme l'Ontario. Vous avez entendu les syndicats d'enseignement qui semblent dire que ça doit faire partie d'un bouquet de mesures là, qui sont pas encore assez implantées à leur avis. Puis ça passe par une meilleure ventilation, une meilleure aération. D'ailleurs, on va parler avec une épidémiologiste, la docteure Machouf, qui a d'ailleurs signé avec d'autres experts une lettre là, qui est très explicite par rapport à ce qui devrait être fait dans les écoles. Mais dites-moi ce que vous en pensez. 514-790-9850 et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Alors, est-ce qu'on en est rendu à rendre le masque obligatoire à l'école, comme c'est le cas en Ontario, au primaire ou au secondaire? Je dis pas ce que c'est ça qu'il faut faire, là. Moi, je pose des questions à la lumière de l'actualité où des données semblent montrer qu'en Ontario, en tout cas, le port du masque obligatoire, selon les experts, a un impact certain sur les cas d'éclosion. On a Dominico là, qui est avec nous. Il est concierge dans une école de Montréal-Nord. Bonjour, Dominico.
Oui, bonjour Isabelle, je t'écoute à tous les jours.
Ben merci. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire par rapport au port du masque et peut-être aux jeunes aussi de votre école?
À part du masque, de qu'est-ce que je vois, mais je suis ici à tous les jours, fait que je vois bien des choses. Uh-huh. Les masques, la plupart, ils n'ont pas de masque, les enfants, les petits-enfants. On n'est pas sûr si c'est 10 ans ou moins, mais les maternelles, c'est sûr, ils n'ont pas de masque.
Non, c'est sûr, ça, la loi dit pas ça.
Mais les enfants qui sont en troisième année, quatrième année, j'en vois pas bien des masques. Mm-hmm. Puis il y a mille élèves ici à l'école.
Oui, puis il y a des secondaires 3, 4, 5. Est-ce qu'ils portent des masques à l'extérieur dans les corridors, de ce que vous voyez, Dominique?
Même pas, Isabelle. Nous, on fait attention, les concierges, les profs, si on se croise dans les couloirs, disons qu'on a toujours nos masques.
Oui. Puis dis-moi, au niveau du nettoyage, parlez-moi du nettoyage, parce que ça, c'est le cœur de votre métier, de ce que vous faites.
Au niveau du nettoyage, je peux vous dire, Isabelle, qu'il y a beaucoup d'ouvrages. On n'arrive pas le matin, puis les écoles, les commissions scolaires, ils font rien. Disons qu'on a comme triple ouvrage. J'exagère pas. Puis, à comparer à avant la pandémie, on a beaucoup d'ouvrages. On n'arrive pas. On ne peut pas désinfecter comme il faut des fois. Puis là, le matin, les profs, avez-vous lavé ma classe? Non, j'ai pas eu le temps. Ils comprennent pas. Disons que les choses vont mal.
Y a-t-il beaucoup de classes que vous n'avez pas le temps de laver le matin?
Oui, on a beaucoup de classes. Une grosse école comme ça, ça prend au moins deux concierges dans le jour, mais je suis le seul.
Êtes-vous sérieux?
Et on a beaucoup de classes. J'ai comme tout l'étage au complet. C'est sûr, je fais la manière qu'on fonctionne ici, t'as pas le choix. Faut que tu fasses un côté un jour pour laver les planchers, une journée l'autre. Un oui, un non. Sinon, tu peux pas faire toutes les classes. Puis, le matin, je commence à 6 heures. Les élèves rentrent à 8h15. J'ai 1h30 pour nettoyer toutes ces classes-là. C'est épouvantable.
Mais l'école vous a pas donné plus de moyens, hein, Dominico?
Même pas. Si je vous dis quelque chose, Isabelle, disons que pendant la pandémie, nous, on était ouverts. C'était essentiel. Fait que moi, j'étais là à tous les jours. J'étais pas obligé d'être ici, mais j'étais là. Oui, on va vous compenser, directeur. Je vais vous compenser. On n'a jamais eu de compensation. Fait que pendant que les autres étaient à la maison, payés pareil, puis moi, je travaillais. Je rentrais tous les jours pendant la pandémie, 3 heures par jour. Disons que on n'est pas content. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les syndicats et tout ça, mais c'est incroyable.
Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, puis c'est bien dommage, je comprends pas trop pourquoi on vous paye pas si vous êtes sur place, si vous avez travaillé, vous devez être payé.
On était payé. Okay. Je vous explique comment ça fonctionne ou comment ça fonctionnait pendant la pandémie. Nous, toutes les 2 semaines, on a notre paye régulière. Fait que les gens qui étaient à la maison, ils ont eu leur paye régulière. Comme moi aussi, moi je rentrais, mais j'ai eu juste ma paye régulière.
Ah oui, je comprends.
Mais j'ai pas eu de surplus.
Je comprends. Mais là, sur le nettoyage des classes, parce que là, Dominico, vous me dites, moi je suis tout seul pour nettoyer une école de 1000 élèves. Je peux pas faire toutes les classes. Je les fais aux 2 jours, c'est ça que je comprends. Absolument. Fait que les bureaux sont nettoyés comment? Les poignées de porte, les lavabos, les salles de bain, les toilettes, on peut faire la liste là, de tout ce qui mérite d'être nettoyé.
Les commissions scolaires, ils appellent ça un gun pour désinfecter. avec un liquide spécial qui s'appelle le DR200. Fait qu'on désinfecte avec ça le matin. La première chose qu'on fait, mais juste faire ça, ça prend beaucoup de temps. On utilise ce produit-là, c'est comme un vapeur. Mm-hmm. C'est un vapeur qui est, c'est un gun, tu sprays ça, tu peux faire ça soit avec la main ou soit avec le gun.
Est-ce qu'il y a des appareils qui ont été installés, par exemple, pour assainir l'air? Est-ce que vous avez du nouvel équipement que vous avez remarqué, Dominique?
Ben, on a eu pas mal de nouvel équipement dans toutes les entrées de l'école. On a l'affaire pour les mains. Là,
le distributeur de gel?
Oui, chaque mm-hmm. élève qui rentre, c'est sûr qu'ils lavent leurs mains. Après ça, on a eu, comme je vous disais tantôt, un liquide qui s'appelle DR200. Ouais. C'est spécialement pour la COVID.
Et en matière d'aération, vous êtes équipé comment?
Chaque prof a une affaire de plastique dans sa classe avec des guenilles qu'on change tous les jours. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'ouvrages. Ça rajoute beaucoup d'ouvrages pour tout le monde. Mais c'est sûr qu'on fait attention.
Ouais.
Et il y a pas mal des choses qui sont cachées, je trouve. Moi, je vois le monde, les enfants qui sont malades dans le jour, des fois, on a une place spéciale. Ils ont des symptômes, ils ont une tousse. Ils viennent tous à la même place, puis c'est moi qui appelle après pour désinfecter la classe.
Vous le faites tous les jours ou vous le faites aux deux jours, cet endroit-là?
Cet endroit-là, je le fais à tous les matins, à toutes les 2-3 heures. Pas le choix parce qu'il y a des enfants qui ont des...
Dominico, c'est incroyable. Ce que vous nous dites, là, c'est que c'est beaucoup moins. Quand je retiens, là, c'est 1000 élèves.
Quelqu'un
vous êtes
qui travaille dans l'école puis il voit tout ça, mais quelqu'un qui n'est pas là, il ne comprend pas.
Et vous, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que tout le monde porte un masque dans l'école?
Oui, absolument.
Vous êtes pour ça, vous?
Okay. Absolument. Je suis pour ça et il faut, mais comme je vous dis... Nous autres, si j'ai pas entendu de... On n'a pas de cas, je pense pas. Mais on dirait que tout est caché, je sais pas moi.
Merci. Merci beaucoup, Dominico, d'avoir pris le temps de nous appeler. Une autre auditrice, Jessica, qui va intervenir. Bonjour, Jessica.
Bonjour.
On vous écoute.
Donc moi, la problématique, c'est qu'on essaie de voir ce que les autres font ou que font correctement ou ne font pas correctement quand on ne vérifie pas ce que nous, on fait correctement. J'ai deux enfants qui vont à l'école, puis je les vois rentrer à l'école. Ils mettent une petite goutte de gel, ils frottent même pas 3 secondes dans leurs mains et hop, ils sont rentrés à l'école. Donc, à la base, si les enfants ne désinfectent pas bien leurs mains, ne nettoient pas bien leurs mains, comment ils vont faire le port du masque? Parce que moi, j'en ai un de 5 ans, j'en ai un de 10 ans. Et si on leur demande de porter un masque et que les mains sont pas bien nettoyées, ils vont contaminer les surfaces, ils vont contaminer leur masque. Donc, à la base, si on nettoie pas bien les mains, si... les surfaces, les écoles sont pas bien nettoyées et qu'on impose le port du masque à nos enfants, je crois qu'on les met en danger pas mal plus qu'en ce moment. Parce qu'ils vont être en contact. C'est dur pour un enfant de 5 ans de gérer, nettoyer ses mains, ne pas toucher le visage.
Ouais,
et
complètement.
En plus, ajouter le masque.
Merci, Jessica. Denis, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour, Isabelle. Moi, j'ai deux points que je voudrais amener. Dans un premier temps, le port du masque, je pense qu'il devrait être obligatoire, ne serait-ce pour au moins en période hivernale, de pas se donner la grippe un l'autre, sans parler de la COVID nécessairement. Je pense qu'en Asie, c'est régulier, le port du masque quand un enfant est malade ou a des symptômes, quel que soit l'âge. La deuxième observation que j'ai, c'est par rapport à vos deux intervenants que vous avez eus plus tôt. Ils disent vouloir faire partie de la solution, mais vous leur avez demandé de prendre position sur un item à la fin de votre entrevue et personne n'a pris position.
C'est difficile.
J'ai jamais vu M. Mallette dans toutes les entrevues qu'il donne à dire une chose de positive. Jamais. Fait qu'à un moment donné, si tu fais partie de la solution, il faut peut-être que tu changes, comme on dit en anglais, ton mindset, puis que tu sois un intervenant qui veut faire partie de la solution. Faudrait que les babines suivent les bottines suivent les babines dans son cas.
Merci.
Moi, personnellement, j'en ai un petit peu là-dessus.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Denis, de votre commentaire. On va aller à la pause tout de suite. Au retour, on va parler à l'épidémiologiste, la docteure Nima Machouf. Elle fait partie de ce groupe d'experts au Québec qui demande que Québec recommande le port du masque en classe. Selon eux, elle va nous expliquer pourquoi c'est important de le faire comme le fait l'Ontario. À tout de suite, tout le monde. Au On est en train de discuter de l'obligation possible du masque à l'école. L'Ontario le fait. Beaucoup parmi vous me disent aussi, oubliez pas de dire que la situation des écoles n'est pas la même en Ontario qu'au Québec, et vous faites référence, entre autres, au fait que les écoles en Ontario sont beaucoup plus neuves que celles au Québec. Ici, on le sait, là, nos écoles, à beaucoup d'endroits, sont vétustes. Au niveau de l'aération, ça fait vraiment dur. Au niveau des fenêtres, il y en a qui m'écrivent, qui me disent que les fenêtres s'ouvrent même pas dans leur école. Ça part de loin. Il y a des écoles où il y a de la moisissure. On le sait que c'était un problème avant. Ça va pas mieux aujourd'hui. Il n'y a rien qui s'est passé depuis 6 mois. Toutefois, il y a des experts qui demandent à Québec de recommander le port du masque en classe. Est-ce que c'est vraiment là qu'on est rendu? La docteure Nima Machaud fait épidémiologiste. Elle fait partie d'ailleurs de ceux qui pensent là, qu'il faut intervenir avec le port du masque à l'école. Bonjour, docteure Machaud.
Bonjour Isabelle.
Expliquez-moi quels seraient les avantages que nos jeunes portent le masque toute la journée en classe.
En fait, il y a des avantages et des désavantages. L'avantage, la situation dans la classe, elle est comment? On a une concentration d'individus puis qui restent ensemble pendant de longues périodes de temps. Alors, et surtout, la ventilation et l'aération n'est pas au rendez-vous. Alors, le masque peut être un élément protecteur. Il sera difficile à porter par les jeunes, tout dépendamment de l'âge des enfants. Mais il y a des façons de le porter de manière un peu plus peut-être ludique, comme alterner le port du masque dans la classe pour faire en sorte que le risque de transmission soit réduit. Tout l'objectif, là, il demeure dans briser la chaîne de transmission si jamais il y a quelqu'un qui est infecté dans la classe.
Mm-hmm. Vous parliez des désavantages. Un des premiers là, qui m'apparaît, c'est le fait que c'est pas drôle quand on est un jeune de primaire ou de secondaire puis qu'on doive passer notre journée avec un masque au visage. Déjà qu'il y a des problèmes de concentration. Au niveau de l'oxygénation aussi, les jeunes ont besoin de bouger. Enfin, mesurons bien le pour et le contre, docteur Machaud, et est-ce que ça serait vraiment la solution?
C'est un élément. C'est un élément de solution. C'est sûr que porter le masque n'est pas agréable, n'est pas facile non plus, mais il faut, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais nous, dans la lettre, ce qu'on a demandé, c'est pas de rendre le masque obligatoire dans les classes. Nous, c'est ce qu'on demandait, c'est qu'on disait au gouvernement qu'il faut reconnaître la question de la transmission par aérosol de la COVID et donc penser à tout le système d'aération dans les écoles et mettre l'argent nécessaire et mettre les diagnostics nécessaires et faire en sorte que la concentration du virus dans l'espace classe soit diminuée.
Et comment vous voyez ça? Vous parlez, entre autres, vous citez le Healthy Buildings de l'Université Harvard, un programme, en fait, où on s'est rendu compte que la meilleure façon de s'assurer d'une bonne aération, ça a l'air tellement simple que c'en est bête, c'est d'ouvrir les fenêtres. Or, au Québec, oui. Ouvrir les fenêtres dans certaines écoles, c'est carrément impossible, Dr Machaud.
Oui. Vous avez tout à fait raison. Vous avez parlé tout à l'heure des écoles qui étaient en mauvais état. Nos écoles, ça fait longtemps qu'il manque d'amour. Et il faut y porter une attention particulière maintenant avec la COVID par-dessus le marché. La question de l'aération devient un problème, une nécessité en fait. Le simple fait que le gouvernement reconnaisse le problème, c'est déjà un début de solution. Ils nous ont dit qu'ils vont injecter 20 millions pour la réfection des systèmes de ventilation existants déjà dans les classes. C'est très bien, mm-hmm. Mais c'est pas assez. L'Ontario, ils ont déjà promis le double et vous venez de nous dire que les écoles en Ontario, en plus, ils étaient en bien meilleur état que les nôtres. Il y a de nombreuses solutions. On veut réduire la charge virale ambiante dans les classes. L'ouverture des fenêtres est une solution. Poser différents appareils dans les classes est une autre solution. Il faut faire appel aux ingénieurs et aux dynamiciens des aérosols pour voir dans un laps de temps court, quel est le meilleur moyen qu'on peut utiliser qui soit peu cher, efficace et fonctionnel.
Et c'est quoi ça? C'est un purificateur d'air?
Il y a différentes solutions. Moi là, ça sort vraiment de ma spécialité. Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais il y a différentes solutions qui existent, dont ces purificateurs, dont différentes choses. Là, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus, mais il y a des gens, c'est ça leur travail, qu'ils évaluent, ils viennent, ils font des diagnostics sur place mm-hmm. pour voir comment se passe l'aération et comment se transporte l'air dans le bâtiment. Ouais. Et ils donnent des directives pour, et des, ils proposent des solutions.
Ouais. On a Caroline qui nous écoute, elle est mère de 3 enfants. Bonjour Caroline. 3 enfants, oh. Puis dans 3 écoles différentes, hein, c'est ça?
Exactement. J'en ai une en maternelle, hein, en secondaire 4 à Sainte-Thérèse et une à Polyvalent de Saint-Jérôme en secondaire 4.
Comment ça fonctionne? Parce que là, ça vous fait 3 bulles différentes dans 3 écoles.
Ça fait 3 bulles, oui. Ouais. Ben, je vous dirais que moi, je suis entièrement pour le port du masque. Cependant, il y a un mais. Déjà, moi, dans les 3 écoles, le COVID est rentré. Donc, à tous les 2 jours, on reçoit un nouveau courriel de la santé publique pour nous dire, nous aviser qu'il y a un cas, nous aviser que, ah, dans l'autobus, il y a un cas. Donc, vérifier jusqu'à telle date les symptômes. Moi, les plus vieux, je le vois à Polyvalente, par exemple, de Saint-Jérôme, il y a 2 écoles, 2 classes de fermées. Les enfants à l'extérieur, c'est pas très distancé. Le port du masque, oui, mais en même temps, on sait que c'est des enfants. Les enfants, là, que t'as beau avoir 15 ans ou 5 ans, ils font pas tellement attention. L'échappe par terre, le ramasse, est-ce que c'est sur le bon bord que je les mets? Donc, moi, ma question, c'est est-ce que c'est plus sécuritaire de porter le masque étant donné les conditions autour puis l'air environnant? C'est là mon gros point d'interrogation. Même ma fille de 5 ans m'a demandé ce matin, « Maman, est-ce que je vais porter mon masque? » Je me suis dit, « OK, tu vas le porter. » Maintenant, elle n'a plus le droit d'emporter son sac d'école à l'école. Donc, c'est le lundi matin, il l'apporte. Il ne le rapporte que le vendredi pour éviter de se promener de maison à l'école. Donc là, je me dis, où est-ce que je mets son masque? Où est-ce que je lui montre à 5 ans, tu vas mettre ton masque dans l'autobus parce que tu as été peut-être contaminé par un enfant qui était dans l'autobus?
Mais vous faites quoi avec la boîte à lunch, par exemple?
Elle apporte la boîte à lunch. C'est la seule chose qu'elle peut apporter. Le sac d'école, lui, ne revient pas. Ça, c'est en maternelle. Le sac d'école revient seulement que le vendredi.
Puis ça vous paraît logique, ça, vous, Caroline? Pas ton sac d'école, mais ta boîte à lunch, c'est correct.
C'est ça. Je trouve pas qu'il y a... Les deux, c'est un risque potentiel entre guillemets.
La question existentielle, si tu mets ton lunch dans ton sac d'école, problème.
Exact. Je trouve que ça devient vraiment complexe pour nous en tant que parents et les enfants. Moi, ma fille a fait une crise d'anxiété énorme avant hier. Elle a peur. Moi, je suis une personne exemptée de travail en plus parce que j'ai une maladie chronique. Donc, moi, j'ai pris le choix pour leur santé mentale de les envoyer à l'école pareil, parce que 170 jours confinés à la maison quand la plus jeune a recommencé, je trouvais ça énorme. Et les dommages étaient présents. Même à 5 ans, elle réagissait, elle pleurait, s'ennuyait de ses amis. Mais maman, pourquoi je ne peux pas sortir?
Mais oui.
Fait que j'ai décidé de les envoyer à l'école et de prendre le risque. Mais là, je reçois à toutes les 2 jours des lettres. Et en plus, sachant que un enfant qui attrape le COVID, si son frère ou sa sœur n'est pas contaminé, peut aller à l'école.
Ben oui, je sais bien. Je sais, j'ai des amis qui ont vécu ça. C'est comme... sincèrement, on cherche la logique là, dans les écoles. Je pense qu'il faut quand même le dire. Puis je fais pas exprès. Là, les gens me disent « Ah, vous parlez tout le temps contre le gouvernement. » Non, mon travail, c'est de poser des questions et d'essayer de faire la lumière. Là. On n'est pas là pour tout gober ce qu'on nous dit. Puis en même temps, il y a des questions qui se posent puis il y a des incohérences. Moi, je voudrais juste qu'on essaye de clarifier certaines choses. Puis quand j'entends votre exemple, Caroline, je me dis, je comprends que des fois, les parents ont raison de se poser des questions. Parce qu'au quotidien, comment ça se gère? Ça devient difficile. Merci beaucoup, Caroline. Bonne chance. Sophie, très rapidement, je vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je vous appelais parce que ma fille, elle a commencé à enseigner à l'école cette année. Donc, elle enseigne au secondaire avec un groupe en difficulté d'apprentissage. Mm-hmm. Et elle me raconte, là, à tous les jours, on se parle, elle me raconte ses journées qui sont assez compliquées. Parce que là, bon, on met le masque quand tu marches, enlève le masque quand tu arrives, remets le masque. Elle, en tout cas, en discutant beaucoup, on en est venu comme un peu une conclusion, si vous voulez, que le port du masque est beaucoup moins compliqué s'il était obligatoire tout le temps.
Ouais.
Et je vous dis même, j'irais plus loin à l'extérieur, parce que aussitôt qu'ils sortent à l'extérieur, ils sont en gang, ça serre dans leurs bras, ça donne des petits bisous, et c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu fais attention en dedans, mais plus à l'extérieur, fait que aussitôt qu'il y a des attroupements, des gangs, on devrait avoir le port du masque. Il me semble qu'on donnerait un grand coup là, pour dire, bon, on met un masque tout le temps, puis on va, à un moment donné, se débarrasser du virus. Là.
Ouais.
C'est en tout cas, c'est notre impression là, mm-hmm. en discutant tous les jours là, comment ça se passe à l'école. Puis elle passe le quart du temps à gérer les masques. Bon, oui, faut que tu le mettes là. Oh non, là, t'es pas obligé. Elle dit, au lieu d'enseigner, j'arrête pas de gérer les masques.
On sait ça. On fait de la gestion sanitaire. Ouais, très bon point. Merci, Sophie. On va s'arrêter ici. La docteure Machaud va pouvoir réagir à tout ce qui a été dit. À tout de suite, tout le monde. Docteur Nima Machouf est épidémiologiste. Docteur Machouf, bon, on a entendu l'inquiétude, là, entre autres, de deux mères, dont les trois enfants, trois écoles différentes, dans les trois endroits, d'ailleurs, les trois bulles, il y a eu des cas de COVID. Donc, il y a de la transmission communautaire dans nos écoles. Vous faites partie d'un groupe d'experts qui presse le gouvernement d'intervenir plus à fond là, pour que les règles sanitaires fassent en sorte qu'il y ait moins de transmission scolaire, ça va devenir un terme. En même temps, bon, ce qu'on comprend, c'est que au-delà de la vétusticité de nos écoles ici par rapport à l'Ontario, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, mais qui demandent des fonds, des moyens, plus d'études. Pendant ce temps-là, il y a Jean qui me dit, juste devant moi, trois ados se partagent une cigarette électronique. Fait que pendant qu'on jase, puis qu'on essaye de dire, faudrait que le gouvernement intervienne, il n'y a pas grand-chose qui change, là.
Ben, on a, nous aussi, une part de responsabilité. Il y a le gouvernement qui doit mettre les moyens nécessaires aux bons endroits, faire les bons diagnostics, puis donner les moyens aux gens de pouvoir faire leur travail. Comme M. Dominico, au début de votre émission, ouais. il nous expliquait à quel point les moyens ne sont pas là pour pouvoir prendre en charge.
Exact.
C'est ça. Donc, ça, c'est une question. Mais on vient d'avoir d'excellents exemples, Isabelle. Madame Caroline et Sophie viennent nous donner viennent vraiment nous expliquer à quel point la gestion du quotidien avec la COVID est compliquée. Trois enfants, des écoles différentes, la question du masque, les messages, les apparences de contradiction, la boîte à lunch versus le sac. C'est vrai qu'il y a une apparence de contradiction. Mais il y a un autre élément aussi qui rentre en ligne de compte où le sac, l'enfant n'a pas besoin, s'il n'a pas besoin de l'amener à la maison, peut le laisser à l'école. Mais le lunch, il faut le renouveler à tous les jours. Donc, il n'a pas le choix que de le transporter. Le risque zéro n'existe pas. Il faut juste qu'on essaye de réduire les choses qu'on fait qui peuvent augmenter le risque. Mm-hmm. Alors, il ne faut pas comparer nécessairement les différentes actions. On dit, OK, le lunch, il faut manger quand même là, le midi. Donc, il faut que j'amène un lunch. Donc, je n'ai pas le choix que d'amener et porter la boîte à lunch.
Oui, mais disons justement, prenons l'exemple du sac à dos. Amène pas ton sac à dos. Si tu l'amènes le lundi, tu le prends seulement le vendredi, mais la boîte à lunch, elle rentre et sort de l'école. Est-ce que ça vous paraît logique?
Oui, parce que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Le sac, les livres peuvent rester à l'école, mais le lunch, il faut le renouveler à chaque jour. L'autre, ils n'ont pas besoin de le renouveler, à moins qu'ils
aient besoin de décider. Donc, on limite les dégâts, c'est ça que vous nous dites.
C'est ça, ouais. Exactement. On limite les dégâts. Et l'autre élément, c'était sur l'histoire du masque avec Sophie.
Oui.
J'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'est compliqué, gérer le masque. Si les profs, en plus qu'il faut qu'ils gèrent la classe avec les différentes mesures, il faut qu'ils fassent répondre à bien d'autres inquiétudes des enfants, la gestion du stress des enfants et de tout le monde. Et ça, c'est par-dessus l'enseignement qu'ils doivent faire. Normalement, juste avec l'enseignement, ils sont archi débordés. Alors, vous imaginez, essayer de gérer ces trucs-là. En santé publique, on a des principes quand on amène une nouvelle mesure. Et l'acceptabilité de la mesure et aussi la faisabilité de la mesure sont des éléments qui sont extrêmement importants. Donc, pour rendre quelque chose faisable, des fois, on va l'imposer même là où ce n'est pas nécessaire, juste parce que ça rend la chose plus facile, puis ça la rend faisable. Le masque, si on dit, elle a tout à fait raison, le masque, si on dit, portez-le tout le temps à l'école, c'est bien moins compliqué qu'on dit, OK, dans ce corridor, tu le portes. Dans la classe, tu le portes.
Ah, c'est sûr, tout à fait. Ouais.
Non, mais ça ne marche pas, là.
Ouais. On a Annick qui nous appelle. Bonjour, Annick, rapidement.
Oui, bonjour, oui, rapidement. Moi, c'est par rapport au masque. En fait, j'ai des expériences différentes. Je travaille dans une école primaire au public. Mon fils est dans un collège. Puis, je travaille aussi près d'un centre communautaire où je vois les jeunes de la polyvalente. Le midi, moi, je suis pas d'accord pour le port du masque à l'intérieur des classes parce qu'à un moment donné, déjà, c'est stressant. Mm-hmm. Il faut que l'enfant puisse respirer pour apprendre, pour s'exprimer, tu sais. Bon, bref, ça, c'est ma partie à moi. ce que je vois dans les écoles, c'est que c'est pas nécessairement dans les classes bulles qui se contaminent, mais comme au collège de mon garçon, il y a 6 classes de fermées, mais c'était 5 enfants dans 5 classes différentes, donc ils ferment toute la classe, donc le risque de contagion, c'est partant du fait que la classe est fermée, est moindre. Ce qui me dérange dans des écoles, c'est qu'on a les moyens de se protéger. L'école primaire, je travaille avec un masque, une visière, une jaquette, parce que je suis avec des enfants en troubles particuliers. Mais la tête des gens est pas toujours allumée. Je m'excuse, je veux pas parler contre des collègues, mais tu sais, on essaie de garder les bulles, on s'arrange pour pas être en même temps au lavabo, exemple, mais tu sais, on peut pas toujours gérer tout.
Non, c'est sûr.
Puis le gouvernement, le port du masque devait être obligatoire à l'extérieur des classes.
OK. Oups, on a perdu. Oui. Annick, très rapidement, parce qu'on conclut l'émission. Malheureusement, je suis désolée, mais on a bien compris. Annick est pour ça. Docteur Machouf, merci d'avoir pris le temps de nous parler. On aura l'occasion de revenir là-dessus. De toute façon, là, c'est pas fini ce débat-là. Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Restez à l'écoute, bien sûr. Puis comme vous le savez, à 13h, c'est le point de presse du premier ministre François Legault. Il sera avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. À demain, tout le monde.